Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur RFI et c'est avec vous Jean-Philippe Dubrulle. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue et vous travaillez pour la Fondation Jean Jaurès qui est un centre de réflexion. Demain aura lieu un premier conseil des entreprises à Bercy. Il s'agit d'une nouvelle instance de travail régulière avec les organisations patronales. Le ministre de l'économie veut ainsi accompagner les entreprises ébranlées par les droits de douane américains, tout en prévenant que le temps du « quoi qu'il en coûte » est terminé. Le contexte est difficile pour l'économie française, ébranlée comme celle de nombreux autres pays par le conflit commercial déclenché par les États-Unis, ce qui ajoute également à l'instabilité politique interne. Écoutons tout d'abord le ministre de l'économie qui était l'invité de BFM TV à la mi-journée.
Il y a des mesures non tarifaires que nous pouvons mettre en place sur ce qui concerne les services digitaux sur lesquels les États-Unis sont en excédent massif, 150 milliards d'euros d'excédent. La guerre tarifaire que mène Donald Trump, c'est d'augmenter le prix des biens et services. Donc par définition, dans la réponse européenne, quel que soit le secteur ciblé, ça augmentera le prix de ces biens et services. La Commission européenne va faire des propositions, elle y travaille. Ensuite, il y aura une concertation à 27 pour déterminer le paquet qui pourrait s'appliquer quelque part en mai, on se donne un peu de temps. Notre priorité, c'est d'aboutir à un abaissement de ces droits de douane et donc de négocier. La négociation, elle commence un peu plus tôt que prévu parce qu'on nous avait dit qu'elle commencerait lors des réunions du FMI à Washington le 22, elle va commencer dès demain. Et si la réunion s'engage bien, eh bien tant que la négociation se poursuit, on n'est pas forcément obligé de mettre en place nos contre-mesures.
Alors, on le sait, les boursiers abhorrent l'incertitude. Les politiques détestent également cela, d'autant, Jean-Philippe Dubrulle, qu'ils subissent les oukases du président américain.
Alors, tout à fait. C'est vrai que les interventions de Donald Trump récentes, par leur intensité, par la vigueur des mesures, mais aussi par leur caractère erratique, on a vu la semaine dernière quand même pas mal de yo-yo sur les marchés financiers en réponse aux interventions de Donald Trump, forcément que ça crée cette instabilité que vous évoquez. Alors, chez les gouvernants, d'une part, mais aussi au sein de la population finalement, parce que dès en fait l'élection de Donald Trump, avant même le lancement de la guerre des droits de douane, déjà les outrances du président Trump avaient infusé dans la population française, et très vite on a eu des réactions d'ailleurs là-dessus d'hostilité ou de défiance.
Oui, il y a déjà d'ailleurs des annulations de vacances prévues cet été aux États-Unis. Ce qui se passe pèse donc sur la relation que les Français ont avec l'Amérique, qui était une relation plutôt positive jusque-là.
Oui, tout à fait, plutôt positive. Et ce qui est assez marquant de voir, c'est que finalement, par rapport au débat public en France, tout ce qui est politique internationale, finalement, était assez en retrait ou accessoire. Alors, depuis quelques années, il y a la guerre en Ukraine, il y a la guerre à Gaza, il y a des thématiques internationales qui s'invitent très fortement.
Oui, mais c'est loin, c'est ailleurs, c'est d'autres gens. Alors que là, ça va toucher le portefeuille
voilà,
des Français.
Ça touche le portefeuille des Français et ça a des conséquences immédiates, ne serait-ce qu'en termes d'image. Aujourd'hui, en mars dernier, par exemple, 62% des Français déclaraient avoir évoqué la scène terrible de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, ce qui est une rencontre internationale, finalement, comme les autres. La majorité des Français en ont parlé. Aujourd'hui, seuls 27% des Français nous disent qu'ils considèrent les États-Unis comme un allié fiable. Il n'y a jamais eu un chiffre aussi bas, pas même au lendemain de la guerre en Irak.
Guerre en Irak que les Français avaient refusé de faire. On se souvient de l'intervention de Dominique de Villepin au siège de l'ONU quand les Américains affirmaient qu'il y avait des armes de destruction massive. La France n'avait pas suivi. Pour revenir à l'économie, à ces droits de douane qui ont des impacts bien évidemment économiques et peut-être sociaux, c'est pour sensibiliser les Français à ce qui est qualifié de pathologie budgétaire de leur pays que François Bayrou convoque après-demain une conférence sur les finances publiques. Il n'est pas certain que cet état des lieux de l'endettement et du déficit de la France, parmi les plus élevés en Europe, débouche sur des annonces concrètes, mais cela donnera la tonalité générale de ce que doit être le budget de l'État pour l'année prochaine. L'objectif de ce séminaire avec Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement qui était sur RTL.
Je ne suis pas sûre aujourd'hui que les Français ont en réalité la véritable vision de nos finances publiques et des échéances qui sont devant nous. Et donc cet exercice de transparence, François Bayrou y est très sensible, parce que je pense qu'il faut ne pas infantiliser les Français, ne pas aller vers des recettes qui soient populistes, mais partager le constat et partager avec eux les solutions. 40 et 50 milliards à trouver effectivement sur le budget de l'année prochaine, ce qui est un effort considérable, puisque vous savez que nous sommes engagés à ne pas renouveler les 10 milliards de fiscalité supplémentaire sans augmentation d'impôts, parce que évidemment c'est une équation qui est une équation difficile, mais le Premier ministre s'est engagé, le Président de la République également dans cette voie.
Alors cette grande messe organisée par le Premier ministre réunira des parlementaires, des organismes de sécurité sociale ou encore des collectivités locales et bien sûr des membres du gouvernement comme Amélie de Montchalin qui est aux comptes publics et Éric Lombard, le ministre de l'économie.
Ça peut être plus d'économie parce que de toute façon, il est hors de question d'augmenter les impôts. On voit bien qu'on est à un niveau d'impôts dans notre pays qui est élevé. Aujourd'hui, le budget qui a été voté nous permet de tenir notre objectif. Je n'annonce aucunement un plan d'économie supplémentaire. Ce que je dis, c'est nous tenons la dépense publique, et si nous tenons la dépense publique telle qu'elle a été votée par les deux assemblées, dans ces cas-là, nous serons à notre objectif.
Vous parlez de 40 milliards d'euros d'économies supplémentaires. Là, en gros, ce qui est en train de se préparer, ça ressemble un peu à une cure d'austérité.
Ça n'est pas le bon mot, parce que la réalité, c'est que nous dépensons en dépense publique 57% de la richesse nationale. Nous dépensons beaucoup et ce que nous pensons, c'est qu'on peut dépenser mieux parce que naturellement, il ne faut pas dégrader le modèle social auquel tout le monde est attaché. Nous allons dépenser moins et dépenser mieux.
Jean-Philippe Dubrul de la Fondation Jean Jaurès, pas d'austérité, mais des économies. C'est ce dont parle le ministre de l'économie. Étant dans le même cas de figure que le fameux tournant de la rigueur décidé par le président Mitterrand, c'était au début des années 80.
Alors, cette déclaration d'Éric Lombard, des économies mais pas d'austérité, ça rappelle un verbatim d'Emmanuel Macron hein, qui disait « ça n'est pas un échec, mais je dirais que ça n'a pas marché ». On est un petit peu là-dedans, mais pour répondre à votre question sur le tournant de la rigueur hein, sous Mitterrand, je dirais que la situation est un peu différente au sens où, il faut se remettre dans le contexte de l'élection de François Mitterrand, où il y a eu un programme mis sur la table qui a été du coup infirmé par la cure d'austérité posée par ce président-là. Et puis il y avait aussi dans la population, avec l'alternance qu'incarnait François Mitterrand, la première fois que la gauche allait à l'Élysée sous la Ve République, l'espoir d'une politique plus redistributive en tout cas. Et donc il y a eu en quelque sorte une double douche froide pour les Français à l'époque. Aujourd'hui, peut-on dire qu'il y a ce type de douche froide-là au vu de la politique économique d'Emmanuel Macron depuis son élection en 2017 et que Éric Lombard, dans votre extrait, confirmait qu'il serait continué à être appliqué, finalement, de surprise, il n'y a pas vraiment.
Pour résumer, vous dites il n'y a pas eu de promesse, donc il n'y a pas de trahison aujourd'hui, à différence de ce qui s'est passé pour les socialistes en 83.
C'est ça, tout à fait. Pas de trahison, en tout cas d'un espoir particulier sur ce plan-là. Après, en effet, la politique d'Emmanuel Macron depuis 2017, elle est toujours maintenue sous ce gouvernement dit de cohabitation, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens ministres d'Emmanuel Macron ou de partisans de son mouvement dedans. Donc on est quand même dans une constance en termes d'orientation politique qui est réelle. Et dans la foulée de ces 8 ans de mandat d'Emmanuel Macron, c'est vrai qu'annoncer des économies n'est pas surprenant.
Pour le budget 2026, il faudra trouver donc entre 40 et 50 milliards d'euros. C'est un effort considérable sans augmentation d'impôts. Donc, c'est une équation difficile dans la mesure où le Premier ministre et le Président de la République se sont engagés justement à ne pas augmenter la fiscalité, la pression fiscale, c'est-à-dire les impôts sur les Français.
Tout à fait. Hein, on peut évoquer ce problème de manière très terre-à-terre. Quand vous n'avez pas assez d'argent pour financer une activité ou un train de vie, vous avez deux solutions, les deux pouvant être appliquées simultanément, ou engranger plus de revenus, ou dépenser moins. L'exécutif a répété qu'il était hors de question d'augmenter les impôts, même si Éric Lombard a déclaré qu'il souhaitait pérenniser le prélèvement exceptionnel sur les très hauts revenus. Donc ça, c'est susceptible de rapporter 2 milliards, sachant que le budget a été voté avec 140 milliards de déficit. Donc on est quand même très loin des comptes à l'équilibre.
En revanche, la contribution exceptionnelle sur les entreprises, les grandes entreprises, hein, et là c'est plusieurs milliards en plus, celle-ci sera supprimée. Hein.
Tout à fait. Et c'est là en fait que l'exécutif finalement se ferme une possibilité de contribuer à l'équilibre des comptes, ou de tendre en tout cas vers cet équilibre, en fermant totalement la porte aux prélèvements sur les grandes entreprises, alors même que, modulo la dernière semaine, les valeurs boursières se sont quand même très très bien portées ces dernières années.
Pas de recette populiste pour trouver de l'argent, disait il y a de cela quelques instants la porte-parole du gouvernement. C'est une manière de prévenir que l'exécutif ne cédera pas aux sirènes de la gauche ou de l'extrême droite qui prônent toujours pour plus de pouvoir d'achat pour les Français.
Oui, en effet, on a ces discours-là finalement de l'exécutif préparent au... pardonnez l'expression, mais au sang et aux larmes, en tout cas en termes budgétaires, il va falloir se serrer la ceinture. Toutes ces expressions renvoient à la même chose. Et j'ai envie de dire, d'autant plus que pendant qu'on a ces discussions budgétaires, il y a quand même une actualité qui a dû frapper toutes ces discussions budgétaires depuis le début de l'année, c'est la situation internationale, ce sont les décisions de Donald Trump, et c'est la résolution des Européens tous ensemble de muscler leur défense et d'effectuer des investissements massifs. Et ça, là-dessus, les Français sont majoritairement d'accord, pas de problème. Mais si on a un budget où on ne veut pas plus d'impôts ou aller prélever là où il y a de l'argent, et qu'on dit, par contre, il faut investir massivement dans la défense à côté, ça veut dire que tous les autres domaines de dépenses vont être réduits, ou en tout cas vont écoper de coups de rabot assez sévères. Donc ça va être tout ce qui est l'État-providence, ça va être les prestations sociales, ça va être l'éducation, la santé, etc. Or, ce sont des choses qui risquent de mal passer auprès de l'opinion, parce que, par exemple, la santé est la première préoccupation des Français.
Est-ce que ça veut dire que ça remet un euro dans le jukebox de la censure? Puisqu'on peut imaginer qu'à gauche... on ne fera pas de cadeau au Premier ministre s'il annonce justement des économies sévères dans certains domaines.
Alors tout à fait, ça paraît difficile si ces déclarations d'intention se maintiennent. Ça paraît très difficile d'envisager que le Parti socialiste, qui avait permis finalement la prorogation, la prolongation du bail de François Bayrou à Matignon, ça paraît difficile de voir le PS valider, consentir à un tel programme économique, d'autant plus que certains de ses partenaires à gauche lui en veuillent toujours d'avoir permis la pérennité du gouvernement Bayrou pour pas grand-chose en termes de contrepartie.
Budget serré donc, et contraint de toutes parts, le Premier ministre qui n'a pas d'espace pour mener une politique anglaise et engager sa politique. Tout se passe finalement comme s'il devait en permanence gérer les affaires courantes. Il ne peut pas imprimer sa marque, Jean-Philippe Dubrulle.
C'est ça, c'est un Premier ministre empêché. D'abord par les marges budgétaires que vous évoquez juste avant, mais sous un certain nombre de dimensions aussi. Déjà parce que le plus évident, c'est que l'Assemblée nationale est éclatée. Le gouvernement ne peut pas utiliser cette Assemblée comme chambre d'enregistrement pour faire passer tout ce qu'il veut. Au contraire, à chaque fois, il risque la censure, potentiellement. Donc, une chose en moins. Ensuite, il y a au sein du gouvernement ce que la porte-parole avait appelé la polyphonie, c'est-à-dire qu'on laisse les uns et les autres exprimer des avis divergents. Ça peut être très bien pour le débat, mais le problème, c'est que si ces débats-là ne sont pas tranchés, et ce que François Bayrou ne fait pas, en fait, lorsque ces débats-là ne sont pas tranchés, le gouvernement perd en force d'entraînement. Et enfin, quelque chose de plus personnel à François Bayrou, plus relatif à sa personne, c'est l'affaire Betaram. C'est cette affaire qui le leste depuis maintenant quasiment 2 mois et qui obère encore davantage sa capacité d'action, d'entraînement, et le conduit à un procès en immobilisme.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI, Radio France Internationale.
Philippe Le Caplin.
Pendant ce temps, Emmanuel Macron s'est rendu en Égypte. Il a alerté sur la crise humanitaire à Gaza et mis en scène son amitié avec son homologue Abdel Fattah al-Sissi. Valérie Gasse, du service politique de RFI, vous étiez de ce voyage officiel. Le président de la République a donc joué la carte égyptienne.
Oui, Emmanuel Macron et Abdel Fattah al-Sissi ne se sont pratiquement pas quittés. Ils ont tout fait pour montrer leur complicité avec ces petites attentions qui font la différence et marquent la volonté d'envoyer un message au-delà des déclarations officielles avec des images. Celles de deux présidents sans cravate qui traversent le souk Khan el-Khalili pour aller dîner dans un restaurant comme des amis. Celles des deux mêmes dans une rame de métro du Caire assis côte à côte et parlant contrat à bâton rompu de manière enjouée. Ou celle encore d'un privilège rare dont s'est enorgueilli l'Élysée du président Sissi qui accompagne Emmanuel Macron à El Arish, cette ville stratégique du Sinaï où est stockée l'aide humanitaire à destination de la population de la bande de Gaza.
D'autant que cette visite avait comme objectif de dénoncer le drame que vivent les populations de Gaza.
C'était la priorité. Depuis des semaines, Emmanuel Macron était concentré sur la guerre en Ukraine. En se rendant en Égypte, il a voulu montrer qu'il ne renonçait pas à essayer de faire entendre sa voix sur le Proche-Orient aussi, et il a choisi l'option Sissi pour le faire. Le chef de l'État connaît bien le président égyptien qui est un interlocuteur clé dans la région. À travers lui, Emmanuel Macron a apporté son soutien au plan arabe de reconstruction de Gaza et a dénoncé la situation de la population palestinienne, intenable selon lui, avec le blocus israélien qui empêche l'acheminement de l'aide humanitaire et prive les Gazaouis de nourriture et de soins.
Alors quel est le bilan de cette visite, Valérie Gaz?
Des messages ont été passés. La France et l'Égypte sont des partenaires stratégiques. La France veut travailler avec les pays arabes. Elle ne renonce pas à trouver une solution politique à deux États après l'obtention d'un cessez-le-feu et envisage même de reconnaître l'État palestinien prochainement. Emmanuel Macron a essayé de montrer que la France avait un rôle à jouer, notamment pour plaider auprès des États-Unis. Le président de la République a d'ailleurs organisé durant son voyage un coup de téléphone à Donald Trump à Troyes avec le président égyptien et le roi de Jordanie. Et en quittant le président Sissi, il lui a glissé « Quand j'aurai un retour des États-Unis, je t'appellerai », comme pour lui dire « Compte sur moi et à bientôt ».
Jean-Philippe Dubrulle de la Fondation Jean Jaurès, à la tête de l'exécutif, chacun joue certes sa partition naturelle, plus diplomatique pour le chef de l'État, en première ligne sur la guerre en Ukraine ou le rapprochement entre les États-Unis et la Russie, davantage tourné vers l'opinion française pour le Premier ministre. Finalement, c'est une répartition des rôles qui est digne d'une cohabitation.
Alors oui, c'est le schéma traditionnel des cohabitations, même si, comme on a pu l'évoquer, le terme cohabitation est sans doute un peu sujet à caution, étant donné le pédigré très macroniste d'une grande partie du gouvernement et la continuité.
Et surtout de François Bayrou.
Voilà, de François Bayrou.
Qui a toujours été macroniste depuis
le
début.
Le premier d'entre eux, quasiment, et la continuité de la politique économique. Maintenant, c'est vrai que depuis cette dissolution ratée, hein, disons-le, de juin dernier, on a beaucoup glosé sur l'effacement d'Emmanuel Macron, finalement un président dont Matignon lui échappait à son contrôle par rapport à avant. En tout cas, donc un président condamné au retrait et devant se limiter à la haute main des relations internationales, classique. Bon, ça c'est une chose, mais j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui a changé là-dedans. On parlait tout à l'heure de l'importance des questions internationales, finalement, dans le débat. Trump en étant la preuve ultime, puisqu'il n'y a quasiment, il fait de l'actualité tout le temps, partout, on ne parle que de lui parce qu'il sature l'espace médiatique. Et donc, finalement, de Emmanuel Macron, de président un peu satellisé, finalement, si l'international devient le cœur du débat, même à l'intérieur, est-ce qu'Emmanuel Macron ne revient pas lui aussi au centre du jeu, mécaniquement?
Oui, parce que la répartition n'apparaît finalement pas si nette, puisque les droits de douane relèvent autant de la diplomatie, domaine réservé du président, que de l'économie, qui est pilotée par Matignon et donc le Premier ministre.
Tout à fait, il y a une intrication à la lueur de la situation internationale, économique et politique. En effet, tout s'imbrique, forcément, que l'exemple, à mon sens, qui est le plus parlant dans ce que vous dites là, cette intrication, c'est le sujet de la défense européenne. Finalement, c'est on ne peut plus politique, on est sur un domaine ultra-régalien qui est la préparation à de potentiels conflits de haute intensité, on est sur les armes, sur les armées, et d'un autre côté, ça induit un débat politique intérieure sur où est-ce qu'on met notre argent.
Dernière chose, comment vous analysez le fait que François Bayrou décroche dans les sondages avec une confiance au plus bas pour un Premier ministre depuis 10 ans? C'est ce qui ressort d'un récent sondage de l'Institut Elab.
Tout à fait, on n'est pas au plancher définitif, mais on est quand même à un étiage très 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 bas pour un Premier ministre. À mon sens, c'est la conséquence directe finalement de son empêchement, de son inaction subie en quelque sorte, au vu de toutes les contraintes institutionnelles, on a parlé de l'Assemblée, etc., mais aussi finalement d'un agenda politique assez dépouillé. Il y a eu des rencontres récemment, des séminaires gouvernementaux pour tenter de trouver des réformes à proposer, des actions, mais finalement tout ça semble rester un petit peu lettre morte, et François Bayrou lui-même semble appuyer en mineur sur la pédale de frein pour ne pas aller trop vite, sachant que toute toute problématique pourrait l'éjecter de Matignon.
Merci pour ces analyses et commentaires. Jean-Philippe Bubrul, politologue qui travaillait pour la Fondation Jean Jaurès, qui est un centre de réflexion. C'était Dimanche Politique sur Radio France Internationale.